Anthony Martiano, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le réalisateur de Play, film qui sort le 1er janvier. Alors, on va parler de Max, qui a 13 ans quand il reçoit sa première caméra. Spielberg a commencé à 12 ans à filmer avec la Super 8 de son papa. Et vous ?
Moi, 13. Alors après, j'ai pas le même parcours. mais je suis honoré par la comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mais non, mais c'est très inspiré, ouais, de ma vie, parce que j'ai toujours eu ce truc de me cacher un peu derrière ma caméra pour filmer tout ce qui se passait autour de moi, mes amis, tout ça. Et donc, on a eu l'idée de ce film à travers cet objectif de caméra, on puisse voir grandir quelqu'un et le voir évoluer dans sa vie.
Comme on l'a dit, donc on va suivre Max pendant 25 ans. En fait, Play, ça aurait pu être Rewind, non ?
Bah, c'était le premier titre. Ah, ouais. Rewind, c'était le premier titre que j'avais trouvé. Je trouvais ça trop anglais. Ouais. Donc on a fait trop anglais. Et donc on a fait Play. Parce que ça a aussi un sens, c'est qu'on a fait ce film pour pouvoir revivre ces scènes. On voulait revivre toutes les scènes de notre enfance parce qu'on n'a pas moyen, à part la pilule qui fait remonter le temps, on n'a pas le moyen de les revivre. Donc on a imaginé ce gars-là qui filme un peu tous les éléments marquants de sa vie pour aussi pouvoir les revoir et appuyer sur play autant de fois qu'il veut, quoi. C'était ça le sens du titre du film.
Alors, VHS, vidéo 8, cassette, un point de vue pratique, est-ce que vous avez été rechercher les différents modes de filmage ou vous avez retravaillé votre image ?
Ah ben ça a été 6 mois de recherche acharnée pour... le but était d'avoir ce résultat-là, c'est-à-dire une image... pour chaque époque qui colle à l'époque, c'est-à-dire pour les années 90, début 2000, le HI8, puis pendant les années 2000, l'ADV, puis fin des années 2000, l'iPhone. Donc il fallait une image qui colle, mais que tout soit assez fluide et assez correct pour un écran de cinéma, quoi. Que ça puisse être digeste pour les spectateurs, qu'ils ne se prennent pas des flous, un mauvais son et tout ça. Donc c'est quand même très, très digeste et le but c'était d'arriver à ça.
Donc c'est pas un travail de post-prod où vous avez travaillé l'image, vous avez travaillé avec des caméras d'époque à chaque fois.
C'était la recherche. Alors on a essayé plein de caméscopes différents, on a essayé des caméras de cinéma aussi, et au final pour la praticité du tournage et puis aussi pour le résultat, pour obtenir ce résultat-là, on a filmé avec des vraies caméras de cinéma et qu'on a ensuite retravaillé par la suite en les passant sur des bandes. On les a retransférées en analogique, puis on les a renumérisées. Pour arriver à ce résultat-là.
Donc il y a un gros travail de post-prod.
Il y a un gros travail de pré-prod et de post-prod.
Ah, ouais, ça c'est énorme quand même. Ouais. Et là finalement, en ce qui concerne le travail musical, je veux dire, vous avez aussi dû beaucoup rechercher pour retrouver les musiques qui collent aux différentes époques. Et surtout, paraît-il, il y a un budget. Achat de droits assez impressionnant, non ?
C'est la plus grosse ligne de budget du film. C'est, on le savait dès le départ, c'est qu'on sait que les musiques ça coûte cher, les musiques connues ça coûte cher. Après, moi je me suis éclaté à faire ça parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un Spotify et puis j'ai mis toutes les chansons qui me passaient par la tête de cette époque-là. Et puis j'allais sur des playlists années 90-2000 et puis je réécoutais des titres. Et dès qu'il y avait un titre, où je me disais, où est-ce que ça m'envoie ce truc-là ? Je ne l'ai pas réécouté depuis 10 ans. Ben, ça, je le rajoutais à ma liste. Je me dis, OK, ça, l'état dans lequel ça m'a mis, je veux que ça mette les spectateurs dans le même état. Donc, celui-là, je le prends. Et alors, il y a des Virtual Insanity de Jamiroquai ou des Finley Quay ou des choses qu'on ne réécoute plus du tout aujourd'hui. Lenny Kravitz, des certains titres de Lenny Kravitz qu'on n'entend plus. Qui nous mettent dans des états, voilà. Après il y a aussi des gros tubes type Wonderwall ou Alanis Morissette ou,
Ça vous a amené à remodifier votre scénario en fonction de la découverte justement de musique qui vous avait marqué à l'époque?
Alors un peu tout, remodifier le scénario à chaque étape, parce que c'était un travail un peu par escalier. On pensait technique pendant qu'on pensait scénario, pendant qu'on était en train d'essayer d'obtenir les droits de la musique. Donc, en fonction des. Alors, effectivement, j'ai dû réécrire pas mal de séquences parce qu'il y a des chansons qui chantent à l'image. On attendait les droits avant de tourner les séquences.
Ah ouais, ah oui, carrément.
Je pense à Wonderwall par exemple, on était en dernière minute à demander au frère Gallagher s'il nous acceptait de nous la donner. Et je crois qu'ils nous ont donné l'autorisation la semaine avant le tournage de la
Waouh.
scène. Avant ça, on ne savait pas où on allait, quoi.
Alors, c'est vrai que quand on voit ces films-là, on pense, hein, c'est certain en tout cas parmi les spectateurs, vont penser à leur soirée d'IA. De vacances, parfois un peu barbantes, ou des films Super 8 qu'on brûle sur sur le Projo, etc. Ça va rappeler plein de souvenirs à certains. Est-ce que vous avez eu un public test en disant, on va vous montrer, on va voir comment vous allez réagir par rapport à ces projections de home vidéo ou de home movies?
Ben, encore une fois, nous, on a voulu garder un côté très propre. C'est-à-dire que ça rappelle le caméscope, mais c'est pas aussi crade que du caméscope. C'est ultra fluide, c'est ultra digeste pour l'écran. Après, évidemment, on a fait énormément de projections test depuis le film, il est terminé depuis 1 an. Et ça fait 1 an qu'on fait des projections parce que on voulait pas se rater là-dessus, on voulait réussir notre pari. Donc on l'a modifié à chaque fois. Après les projections, on le remodifiait en fonction de ce que nous disaient les gens, de ce qu'on voyait, de ce qu'on repérait dans la salle, de ce qu'on entendait. Et pour arriver à ce résultat-là où des gens, quel que soit l'âge, et ça vraiment on s'y attendait pas. Nous on pensait qu'on avait fait un film pour les trentenaires, quarantenaires. Et en fait, on se rend compte que quel que soit l'âge, moi il y a 15-20 ans, ils adorent le film. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, ils nous disent, bah, en fait, nous, on se voit là aujourd'hui. C'est exactement ça qu'on vit. Et puis, ils me disent, et ce qui est marrant, c'est qu'on voit ce qu'on va devenir aussi, ce qui nous attend.
Alors, près de 15 ans de longue amitié, quand même, hein, on peut le dire. Est-ce qu'une telle complicité entre vous peut parfois poser problème par rapport à l'équipe, les autres comédiens ou les techniciens, sachant justement que vous avez une telle connivence entre vous?
Je crois. Je crois que ça peut poser problème. Parce que on est comme un vieux couple, on se chamaille tout le temps, on se connaît trop. Parfois ça choque les gens la manière dont on peut se
Ah ouais.
parler, mais nous ça nous va, on est habitués.
Alors, casting, bon, fatalement, Max, hein, c'est l'évidence. Alain Chabat, c'était aussi une évidence.
Ben, c'est toujours une évidence pour moi, Alain Chabat. C'est le roi de la comédie, c'est l'homme qui m'a donné envie et qui d'ailleurs m'a permis de faire ce métier. Mais c'est aussi parce qu'on devait faire jouer le rôle du père de Max et de la mère. Donc on cherchait un couple qui collait le mieux possible et qui nous rappelait le plus de choses sur les années 90. Et donc Alain Chabat et Noémie Lvovsky, qui se connaissaient pas d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur le tournage, ça marchait super bien, et puis il nous a fait l'honneur d'accepter ce rôle. Moi c'est à chaque fois une surprise qu'il accepte les rôles que je lui propose.
Et les jeunes là, parce que bon, ils ont tous un peu moins de 30 ans, Alice, Arthur, Alexandre, Camille. À part finalement, c'est assez surprenant. Malik Zidi, 44, lui, c'est le plus vieux de la bande.
Ben, encore une fois, nous, on fait tout dans le film pour qu'on ne se rende pas compte
Ah
du passage des âges, du changement de comédien. C'est vécu comme un documentaire, les gens voient grandir quelqu'un, et je pense que c'est ça qui est touchant. Je ne me posais pas la question de quel âge avait chacun, je voulais voir ce que ça rendait à l'écran, et tant que ça me semblait logique, tout roulait, quoi.
Longueur, 1h48, c'est pour une comédie. On n'a pas l'habitude, finalement. C'est en général plus court.
Mais est-ce que ça vous a paru long?
Ah,
Eh ben
non!
alors voilà.
Non, mais est-ce que vous aviez des impératifs comme ça?
Non, aucun. Aucun. Il y a un début, un milieu, une fin. Les gens, en sortant, trouvent ça trop court, vraiment, sans fausse.
J'aurais pu continuer, ça c'est sûr. Hein?
C'est-à-dire que les gens, ils voient défiler leur vie, ils attendent la séquence suivante, puis la séquence suivante, puis la séquence suivante. Bon, on arrive à 1h48, je savais même pas. C'est vous qui me l'apprenez que ça fait 1h48.
Alors, 4 ans pour faire les gamins. Ici, vous avez mis aussi longtemps pour concevoir et nous présenter ce play.
J'ai mis 10 ans à avoir l'idée,
Ah ouais.
et je pense que c'est le gros du travail, c'était de peaufiner cette idée. C'est-à-dire que faire un film sur une vie, ou sur quelqu'un qui grandit sans avoir cette idée-là d'un personnage qui filme toute sa vie, ça valait pas la même chose. On voulait trouver le fond qui rejoint la forme, et le fond, c'est la nostalgie. Et la forme pour la nostalgie, bah, c'est de prendre le spectateur et de le mettre en immersion dans le film et de lui refaire vivre ces séquences-là plutôt que de les vivre en spectateur, de les vivre en tant que personnage. Et donc, c'est 10 ans pour l'idée, mais après, c'était assez rapide. C'était 2 ans pour l'écrire et le tourner.
Alors, Dimitri Hassan, un de vos producteurs, c'était facile à convaincre?
Alors, vraiment, ça a mis 10 minutes. J'ai fait un déjeuner avec Benjamin Elalouf et Dimitri Rassam, qui sont les deux producteurs, et je leur ai dit, voilà, l'idée, c'est un mec qui va filmer tous les éléments marquants de sa vie, et on va suivre à travers sa caméra, bah, toute une vie qui passe. Et il m'a arrêté là. Je lui ai dit, attends, je te dis la suite. Il m'a dit, non, non, c'est bon, j'ai compris,
Wow.
il faut le faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a fait la même chose avec le distributeur, lui. Je lui ai dit, mais attends qu'on ait un script. Il a fait la même chose et le distributeur a dit, ok, je le fais tout de suite. Donc c'est moi, ce qui m'a convaincu, c'est pas que y ait de l'opportunisme là-dedans, c'est que les gens captent l'idée comme je me dis que les spectateurs vont capter l'idée. C'est J'ai l'impression que les gens ont besoin de revivre ces époques-là, cette époque-là, ont besoin de revoir des images comme ça, ont besoin de faire le bilan sur 25 ans là. Et c'est ça que j'ai vu dans leur excitation immédiate.
Alors on parle beaucoup du de-aging de Scorsese.
Ouais.
Qu'est-ce que vous inspire par rapport à Play?
Ben, on n'avait pas le même budget. Donc,
Il était consacré à la musique.
alors moi, j'ai adoré The Irishman, mais je dois dire que de-aging ou pas de-aging, ça m'aurait rien changé parce que je trouve pas ça génial en vrai, le de-aging, et ça m'aurait pas changé grand-chose. Donc, ils auraient pu économiser quelques dollars. Nous, on n'avait pas le même budget, donc on a fait avec du maquillage et puis avec quelques VFX aussi, VFX, c'est-à-dire des effets faits en post-production. On s'en sort pas trop mal parce qu'il y a personne qui voit rien, c'est-à-dire personne ne voit les ficelles.
Voilà, on répète, 1er janvier,
1er janvier.
Play. Merci en tout cas.
Merci.